chaque midi jusqu'à 13h15 avec vous, Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Europe Midi. À la une aujourd'hui, la France a froid. Tour de France, des régions qui grelottent dès le début de ce journal. Nous serons dans l'Est où le thermomètre affichait moins 12 ce matin. Nous serons à Paris où l'accueil des SDF pose toujours problème. Nous serons à Marseille où certains écoliers sont obligés de garder leur doudoune en classe. Ce froid, Valérie Darmon, il va être tenace et 18 départements sont placés en vigilance orange à cause de la neige et du verglas.
Absolument, Maxime. 18 départements de l'Orne et du Calvados jusqu'à l'Aisne et le Nord, bassin parisien compris, en alerte orange, pluie et verglas à partir de ce soir minuit jusqu'à demain fin de journée. Les températures sont en dessous des normales partout, sans dégel à l'est de Paris jusque vers l'Alsace, la Champagne, la Bourgogne, en Auvergne, en Rhône-Alpes. Elles vont le rester. Les maximales seront donc encore négatifs cet après-midi avec moins 3 à Langres, à Verdun, à Strasbourg, moins 1 à Charleville, à Clermont-Ferrand, 0 à Lille, à Lyon, à Chambéry, à Annecy, 1 à Paris, 2 au Mans et à Rouen, 4 à Toulouse, à Auch, à Nantes et à Agen. Petite remontée prévue pour dimanche et pour la semaine prochaine.
Merci Valérie, météo complète juste avant 13h. À la une de l'actualité également, la relaxe pour un chercheur du CNRS. Il avait fait entrer illégalement 3 réfugiés érythréens en France. Le juge parle d'un acte de dignité. Dans ce journal, il faut arrêter le massacre. C'est le cri du cœur des syndicats du secteur bancaire. Ils craignent que les fermetures d'agences s'accélèrent encore en 2017. On en parle dans le journal et tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Donald Trump a de la visite. Le président élu va recevoir cet après-midi les patrons des services de renseignement américains. Ils vont tenter de le convaincre que la Russie a bien perturbé la dernière campagne pour la présidentielle américaine. Trump sceptique jusque-là. Au sommaire de cette édition, les ampoules à LED, elles ont envahi nos maisons, mais elles pourraient représenter un danger pour les yeux. Et puis, un cours de cuisine en fin de journal. Nous vous dirons comment réaliser facilement, rapidement, votre propre galette des rois. Ce week-end, c'est l'épiphanie. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi. Maxime Switek.
Gelé, glacé, givré, quasiment toute la France doit faire face, vous l'avez compris, à une vague de froid. Valérie Darmon nous l'a dit dans les titres. Température toujours négative cet après-midi dans l'Est et le Nord. Température toujours négative demain matin sur tout le pays, à de rares exceptions près. Arthur Mbaché, vous êtes à Sarrebourg en Moselle où le thermomètre a sérieusement plongé ce matin.
Et le jeu depuis ce matin ici à Sarrebourg, c'est qui a eu la température la plus basse sur le tableau de bord de sa voiture. Le véhicule de reportage d'Europe 1 est allé jusqu'à moins 12, donc classique, des kilomètres d'écharpe remontés jusqu'aux yeux, des mains qui tremblent à l'intérieur des gants et des doigts de pied congelés.
C'était bien frais quoi. Hein. Bon après on s'adapte, hein. On s'y fait, il n'y a pas le choix et ça fait plaisir de voir la neige.
Vous n'avez pas de bonnet ?
Non, pas de bonnet, pas... Pas besoin, hein.
Ah bah si.
Ah, on vient du Nord, hein. On a l'habitude, hein.
Vous voyez bien, ça me fait pleurer.
Le froid, vous avez les yeux qui coulent?
Oui. Ouais.
Bon, vous êtes bien équipé, j'ai l'impression.
Parce que moi, c'est les pieds que j'ai gelés toute la journée.
C'est vrai?
Vous n'aurez pas un remède?
Pour les pieds?
Pour avoir chaud aux pieds.
Bah, mettez une deuxième paire de chaussettes. Voilà, et maintenant, pause déjeuner, copieux ce midi dans le nord-est de la France. Mangez beaucoup avec ces températures. Il ne faut pas, paraît-il, lésiner sur les calories.
Et on en parlera d'ailleurs dans un instant de ce que nous devons manger par ces froides températures. Merci Arthur Mbaché. Moins 12 donc à Sarrebourg en Moselle. Il devait faire moins 3 ou moins 4 à Paris ce matin. Là, à midi et demi, on est autour de 0 ou 1 degré. Les associations qui viennent en aide aux SDF continuent de pointer du doigt la difficulté qu'elles ont à trouver des places d'hébergement, notamment dans la capitale. Mais la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a voulu ce matin tempérer ce diagnostic. Pour elle, il n'y a jamais eu autant de places d'accueil. 40 000 créés en France en 4 ans.
La situation de l'hébergement, elle est toujours difficile parce qu'à partir du moment où vous avez une personne qui est à la rue, il faut se mobiliser pour qu'elle ne le soit plus. Mais cet hiver, nous avons encore augmenté des places, ce qui fait que la situation, elle n'est pas plus tendue que l'hiver précédent qu'un autre. Il fait un peu plus froid que l'hiver dernier, mais pas. Et on a cette vague de froid, mais ce qui enclenche des augmentations d'ouverture de gymnases en cas de difficulté, notamment. Donc, chacun est dans son rôle. Les associations ont raison de toujours s'indigner. Mais moi, je dis simplement que S'il y a encore des personnes qui n'ont pas de place d'hébergement, la situation s'est plutôt améliorée ces dernières années et que je vais continuer.
Emmanuel Cosse avec Rémi Botsaron dans un centre d'hébergement réservé aux femmes à Paris. Il y a donc le froid, il y a aussi la neige et le verglas. 18 départements, vous l'avez entendu, sont placés en vigilance orange à cause de la neige et du verglas attendus, notamment la nuit prochaine et demain matin en région parisienne, en Normandie et dans le Nord. Nous étions à Paris à l'instant, nous étions dans l'Est en début de journal, Marseille à présent, Marseille où, et c'est vrai, il fait plutôt doux, autour de 6-8 degrés cet après-midi, plutôt doux par rapport au reste de la France, sauf qu'une dizaine d'écoles ont de gros problèmes de chauffage. Et Nathalie Chevance, les élèves se retrouvent obligés de garder leur manteau en classe. Vous êtes devant l'une de ces écoles.
Oui, école maternelle Saint-Julien. Ici, le chauffage ne fonctionne plus depuis 15 jours. Cela veut dire que depuis la rentrée, les petits grelottent dans les classes, comme l'explique Marion, adjointe d'animation.
On a très froid. Les enfants dorment dans un dortoir où il fait entre 7 et 11 degrés. Les enfants sont dans les classes avec les bonnets, les écharpes. Bon, ils ont des petits chauffages d'appoint, mais ça chauffe pas grand-chose. En fait, ils arrivent à atteindre 11, 12 degrés. Moi, je trouve ça inadmissible. Ah oui, c'est glacé.
Du coup, certains parents refusent de mettre leur enfant en classe. C'est le cas de cette maman très en colère du manque d'informations.
On n'a pas été informé que le chauffage ne fonctionnait pas, qu'il fait très froid et surtout au moment des repas, il fait vraiment 3 à 5 degrés. Du coup, ma fille est tombée malade, donc cet après-midi, je l'enlève, je l'amène chez le médecin.
Alors la directrice de l'école maternelle multiplie les coups de fil auprès des services de la ville. Les techniciens sont sur place pour réparer cette chaudière nouvellement installée mais qui fuit. Manque d'anticipation dénoncée par cette autre maman.
Il y a urgence à réparer le chauffage. Et on me dit pas lundi peut-être, c'est lundi, oui, sûr. Rien que pour la réputation de l'école et pour la directrice qui fait son maximum. Ainsi que la maîtresse, elle se couvre d'un manteau et d'une écharpe.
Et à la ville, on reconnaît effectivement que les techniciens sont très sollicités car lorsque le froid arrive, les chaudières tournent à fond et parfois des pièces peuvent lâcher.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Bonjour Ève Roger.
Bonjour Maxime.
Si on parle autant du froid aujourd'hui, c'est parce qu'il représente un vrai risque pour notre santé, un risque notamment pour notre cœur.
Et oui, une étude montre qu'un degré de température en moins, c'est un risque majoré de 2% d'infarctus du myocarde. Alors imaginez 4, 5 ou 10 degrés de moins, ce qui est le cas en ce moment. Alors pourquoi le cœur est-il si sensible au froid ? Eh bien parce que l'organisme a besoin de plus d'énergie pour maintenir la température du corps. Résultat, le cœur travaille plus, il se met à battre plus vite, sa consommation d'oxygène augmente, nos vaisseaux aussi se contractent davantage, ce qui favorise la coagulation du sang et le risque de faire un caillot. Alors évidemment, le conseil, c'est de se couvrir avec ce qu'on appelle la stratégie de l'oignon. Plusieurs couches qu'on met ou qu'on enlève les unes après les autres plutôt qu'un seul gros pull. Une mention particulière pour les hommes chauves parce qu'ils ont, comme les bébés, une surface du corps au contact du froid plus importante que ceux qui ont la chance d'avoir encore des cheveux comme vous, Maxime.
Et voilà pour l'explication. Ève, on est d'accord, dans ces conditions, on ne lésine pas au moment des repas. On peut se lâcher, notre corps en a besoin.
Alors effectivement, c'est le moment ou jamais. Écoutez Laurence Plumet, elle est médecin nutritionniste.
C'est pas le moment de manger des petites salades composées, la petite salade verte. Et si on a envie de se faire un bon cassoulet, on y va. Si on a envie de se faire une raclette, on y va. Donc à chaque repas, prévoir du riz, des pâtes, des pommes de terre. Ne pas hésiter à rajouter du fromage dessus. Ça mettra un petit peu plus de gras supplémentaire. Et puis terminer par un fruit.
Alors attention, ne vous réjouissez pas trop parce qu'il faut toujours rajouter à ce plat roboratif un légume vert, conseillé aussi en ce moment. Des soupes, évidemment épaisses, ça réchauffe et puis ça hydrate. Parce qu'il faut savoir, et ça peut paraître surprenant, que le froid engendre quasi les mêmes risques de déshydratation que la canicule.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Europe
1. Il est 12h38, Europe Midi, la suite du journal, Maxime Switek.
Il a été relaxé, Pierre-Alain Mannoni est chercheur au CNRS à Nice. Il était poursuivi, un peu comme l'agriculteur dont nous vous parlions en début de semaine, il était poursuivi pour avoir fait entrer en France illégalement 3 réfugiés érythréennes. Il s'est fait arrêter à un péage en octobre dernier alors qu'elles étaient dans sa voiture. Mais Frédéric Michel, vous êtes à Nice pour Europe 1, mais Frédéric, le juge a donc refusé de sanctionner cet universitaire.
Effectivement, Maxime, contrairement au parquet qui avait requis contre cet universitaire 6 mois de prison avec sursis, le tribunal estime qu'on ne peut pas lui reprocher d'être venu en aide à ces 3 femmes originaires d'Érythrée, son geste étant gratuit et répondant à une situation évidente de détresse. Pierre-Alain Mannoni est donc relaxé et soulagé.
Donc aujourd'hui, en France, sachez-le, on a le droit d'héberger, on a le droit de nourrir, on a le droit de sauver des gens lorsque les conditions sont nécessaires pour préserver leur dignité et leur intégrité physique. Donc sachez-le.
Et puisque durant ce quinquennat, le délit de solidarité a été abrogé, il était logique pour Maître Maeva Binemelis, son avocate, que l'immunité humanitaire s'applique.
Le caractère humanitaire a été reconnu. Ça fait partie de l'immunité qui est prévue par le code des étrangers. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où leur dignité est en jeu, il faut les aider.
Alors ce jugement intervient 48 heures après la comparution de Cédric Herrou, vous l'avez dit, un agriculteur poursuivi pour des faits similaires. La décision sera rendue le 10 février, mais pour son frère Morgane, il y a des raisons d'espérer.
Je suis soulagé. On avait un peu peur que la justice soit prise en étau, côté politique, une pression et tout ça. Et là on voit très bien qu'ils sont complètement indépendants. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a une vraie justice.
Une vraie justice, c'est ce que réclament de nombreux habitants de la Roya, cette vallée enclavée à la frontière avec l'Italie. On est ici à quelques kilomètres seulement de Vintimille.
Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1. Merci Frédéric. La campagne pour la présidentielle, premier déplacement officiel pour Marine Le Pen cet après-midi, à Écouy, village normand de 850 habitants où elle est arrivée en tête en 2012. Marine Le Pen veut multiplier ce genre de déplacement dans cette France dont on ne parle jamais d'après elle. Maxence Tambrec, vous êtes déjà sur place pour Europe 1, Maxence, Écouy, c'est l'exemple parfait de la stratégie que veut adopter Marine Le Pen dans les 5 prochains mois.
Oui, Marine Le Pen sait que les grandes villes sont imprenables pour le FN, alors que dans ces villages, il reste de nombreuses voies à conquérir. Ici, le sentiment d'abandon domine.
Ça veut dire que même les petits villages, elle est intéressée et elle ne veut pas les laisser tomber non plus, quoi. C'est qu'elle s'intéresse aussi aux gens de la campagne.
Peu importe son discours, en fait, sa simple présence tout à l'heure au bureau de poste marquera les esprits.
C'est en se déplaçant qu'elle peut gagner des voix, apaiser peut-être certains, qu'en dira-t-on, à droite et à gauche. Ouais, il faut se déplacer.
Objectif, 1 ou 2 villages par semaine. Marine Le Pen veut y incarner la simplicité, la nouveauté.
Il faut toujours essayer. Quand on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir.
La patronne du FN vient donc parler aux abstentionnistes, mais aussi aux retraités, très nombreux dans ce village.
Je pense que les retraités, depuis 2012, ont tellement été, j'en fais partie, alors on peut être gâté par le gouvernement et puis les gens en ont marre.
On donne de l'argent à des émigrés alors qu'il y a des gens, ils n'ont même pas 600 euros de retraite et puis on va donner 800 euros à des émigrés, il faut arrêter les conneries.
Il n'y a beau avoir ici aucun immigré, le discours identitaire anti-immigration fonctionne sans problème. Marine Le Pen l'a bien compris.
Maxence Lambrac à Écouy en Normandie pour Europe 1 et toujours en politique. Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, a annoncé ce matin sur Europe 1, au micro de Fabien Amias, qu'elle soutenait Manuel Valls dans la course à la primaire de la gauche.
Europe 1, il est 12h42. Europe Midi se poursuit dans une minute avec vous, Maxime Switek.
Et avec ces agences bancaires du coin de la rue qui disparaissent les unes après les autres, les syndicats craignent que le mouvement s'accélère. À tout de suite.
Europe Midi.
Il est 12h43, la suite d'Europe Midi, Maxime Switek, avec donc cette très grosse inquiétude des syndicats du secteur bancaire.
Et notamment du syndicat national des banques, c'est le deuxième du secteur. Il craint qu'en 2017, puis en 2018, les grands groupes bancaires continuent à fermer les agences, des agences et à supprimer des postes. Pauline Jacquot, ce mouvement, il a déjà commencé depuis plusieurs années.
Oui, il y a 2 ans, à la Caisse d'Épargne, l'an dernier, c'était au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole. Dans toutes les banques de réseau, des milliers de postes sont supprimés depuis 2008. Mais là, ça s'accélère. Les banques deviennent de plus en plus digitales. Ça veut dire que ce sont des logiciels qui répondent à vos emails ou des assistants virtuels qui vous aident dans vos démarches. Résultat, les agences sont en sureffectif et doivent supprimer des postes, selon l'économiste Philippe Crevel.
On sait qu'il y a aujourd'hui un tiers des agences qui pourraient être amenées dans les 10 prochaines années à être fermées. Ça concerne à peu près plus de 100 000 personnes qui pourraient être amenées à changer d'emploi au niveau bancaire. Et donc, évidemment, là, il y a des sureffectifs et il faut de nouvelles activités ou malheureusement supprimer des postes.
Supprimer des postes puisqu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans les emplois digitaux. En 5 ans, le secteur bancaire aura supprimé près de 10 000 emplois.
Explication de Pauline Jacquot. Votre agence bancaire au coin de votre rue est-elle d'ores et déjà condamnée? Ce sera le débat d'Europe Midi tout à l'heure à 13h05.
Et vous pouvez bien sûr, comme tous les jours, réagir au débat d'Europe Midi. Vos questions, vos messages, dès maintenant sur Twitter avec le hashtag #1midi ou au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute.
Pas sûr que la rencontre sera des plus chaleureuses, mais après avoir été repoussée, elle aura bien lieu tout à l'heure à New York. Donald Trump va recevoir les patrons des services de renseignements américains, NSA, CIA, FBI, des services qui sont persuadés que la Russie a faussé le jeu de la campagne électorale et a perturbé notamment la campagne d'Hillary Clinton en novembre dernier. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Xavier, jusqu'à présent, Donald Trump était très sceptique.
Oui, pour convaincre leur futur patron, les chefs du renseignement américain vont arriver à la Trump Tower avec un rapport de 50 pages, le même que celui remis hier à Barack Obama. Donald Trump aura face à lui notamment James Clapper, le directeur national du renseignement. Hier, face au sénateur, le chef espion a bien fait comprendre ce qu'il pensait des critiques du futur président.
Il y a une différence importante entre un sain scepticisme que les décideurs politiques, et notamment le décideur numéro 1, doivent toujours avoir en matière de renseignement et le dénigrement.
On le comprend, la confrontation risque d'être tendue. Comment Donald Trump va-t-il réagir devant les preuves qui lui seront présentées? Le contenu du rapport est encore tenu secret, mais on sait, grâce au Washington Post, qu'il y a notamment des écoutes téléphoniques où l'on entend de hauts responsables russes se féliciter de la victoire de Donald Trump.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous pour Europe Midi, expert en cybersécurité. Est-ce qu'on a aujourd'hui, question simple, une preuve imparable, indéfectible, de l'implication de la Russie qui aurait éventuellement orienté le résultat de l'élection américaine?
Non, en fait, on a un faisceau de preuves, des éléments qui viennent s'ajouter un à un de manière à tirer une conclusion. En fait, on n'a pas, manque ce que les enquêteurs criminels appellent le smoking gun, le pistolet fumant qu'on tient dans sa main au moment où on vient de tuer un individu et qui apporte la preuve irréfutable. Donc ce sont des convictions à partir d'éléments techniques disparates qu'on additionne, mais certainement pas la preuve ultime et non discutable en quelque sorte d'une responsabilité russe.
Mais alors vous parlez de faisceaux d'indices, quels indices par exemple?
Alors ça peut être, alors d'une part des localisations techniques de serveurs, en remontant une chaîne on estime qu'on commence à se rapprocher du point d'émission, mais même si on arrivait au territoire russe, alors en plus c'est pas d'ailleurs le cas en l'espèce, mais ça ne prouverait pas l'engagement, le financement, la coordination d'un État, c'est pas parce que ça part d'un territoire. Ensuite des éléments de code qui pourraient révéler une nationalité, une origine géographique, et puis des modes comparables dans d'autres affaires où éventuellement on aurait pu déterminer des responsabilités. C'est donc un faisceau plus qu'une preuve indiscutable.
Mais pour être très concret, de quoi est-ce qu'on accuse les Russes aujourd'hui?
Alors les Russes, on les accuse de deux choses. D'une part, d'avoir réussi une pénétration informatique des systèmes de la structure de pilotage du Parti démocrate et donc d'avoir été en mesure d'extraire des emails de manière à les rendre publics et ainsi infecter le débat.
Et à perturber la campagne d'Hillary Clinton.
Voilà, en tout cas de polluer le débat en apportant des éléments qui avaient vocation à rester secrets. Et également d'avoir participé à une campagne d'intoxication, c'est-à-dire de diffuser des fausses nouvelles. Vous vous rappelez de ce monsieur qui est parti dans un restaurant aux États-Unis avec un fusil, pensant poursuivre les participants ou les soutiens d'un réseau pédophile lié à Hillary Clinton. On est là, et là aussi sur...
toute l'histoire était bidon.
Exactement, sur la guerre de l'information, mais qui a eu des conséquences dans le monde physique avec cette personne dans cette pizzeria.
Alors on l'a dit avec notre correspondant aux États-Unis Xavier Yvon, Donald Trump va recevoir aujourd'hui le patron du FBI, de la NSA, le patron de la CIA. Donald Trump qui est sceptique vis-à-vis des services de renseignement américains. Est-ce qu'il n'a pas raison d'être sceptique? Le camp Trump donne un exemple. Il dit « Nous, on se souvient des armes de destruction massive qu'on était censé avoir trouvées en Irak. Il n'y en avait pas. »
Alors effectivement, c'est de toute façon, Donald Trump n'est pas forcément réceptif à cette contestation de l'élection, ou en tout cas du fait qu'il n'aurait pas gagné par sa seule qualité.
C'est pas son intérêt.
Exactement. Et puis, en plus, c'est quelqu'un du monde de l'entreprise. Il n'est pas familier du monde du renseignement. D'ailleurs, le parlementaire McCain rappelait qu'effectivement, appelant de ses voeux, que M. Trump commence à apprendre à travailler avec les services de renseignement qui sont évidemment l'apanage d'habitude des services gouvernementaux, de l'État, et donc en tant que dirigeant d'entreprise, il est peut-être moins familier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les rapports qui s'accumulent, on parle donc de la CIA, du FBI, du DHS, l'équivalent à peu près de notre ministère de l'Intérieur, la question c'est qu'est-ce qui va advenir dans 15 jours, au-delà du 21 janvier, quand M. Trump sera président de plein exercice. Il y a fort à parier que ces rapports rejoindront les étagères des bibliothèques, mais ne verront pas de conséquences ou d'exploitation opérationnelle.
Merci Nicolas Arpagian, spécialiste des questions de cybersécurité et auteur notamment du Que sais-je sur la cybersécurité aux éditions PUF. Merci d'être venu dans ce studio d'Europe Midi. On reste à l'étranger avec ces incidents ce matin en Côte d'Ivoire. Un camp militaire attaqué à Boaké, la deuxième ville du pays. Deux commissariats visés également. Apparemment une mutinerie d'anciens soldats qui réclament le versement d'une prime.
Europe.
Il est 12h50, Europe Midi, la suite du journal, Maxime Switek.
Demain, cela fera 2 ans, c'était le 7 janvier 2015, les locaux de Charlie Hebdo attaqués par 2 terroristes, 12 morts ce jour-là, dont 7 dessinateurs et éditorialistes du journal. 2 ans après cet attentat, comment va Charlie Hebdo? C'est la question que vous vous êtes posée, Virginie Salmen. Où en est le journal 2 ans après?
Alors d'abord, c'est le secret. La rédaction du journal n'a pas d'adresse officielle. On sait juste que c'est à Paris. Pour entrer dans l'immeuble, il faut fournir un mot de passe, puis traverser plusieurs sas de sécurité et plusieurs portes blindées avant d'être soumis à une fouille par des gardiens armés. Et à l'intérieur, disons qu'il n'y a pas d'ambiance, me disait un ex de Charlie. Pour lui, impossible de travailler dans un bunker avec des hommes en armes postés entre les bureaux. Il y a même une panic room, une sorte de chambre forte au milieu de la pièce en cas d'attaque. Pour lui, la sécurité anéantit la créativité. Pourtant, le journal se vend bien mieux qu'avant 2015, selon la direction. Les ventes ont plus que triplé, même si le pic d'abonnement qui a suivi les attentats est largement retombé. En revanche, le contenu du journal n'a quasiment pas bougé. Il est possible qu'on dessine un peu moins le prophète, me disait un ex-journaliste. En tout cas, on n'en ferait plus la une du journal. Voilà peut-être le principal changement symbolique.
Merci Virginie Salmen.
Europe 1, il est 12h52. Europe Midi se poursuit dans un instant avec vous, Maxime Switek.
Et avec cette alerte autour des ampoules LED, leur lumière pourrait être nuisible. Et puis restez avec nous, on vous apprend dans un instant à faire votre propre galette. A tout de suite et bon appétit.
Midi.
Il est 12h53, à la suite d'Europe Midi, Maxime Switek avec donc les inquiétudes de l'INSERM autour des ampoules à LED.
Oui, elles sont aujourd'hui quasiment partout, elles ont remplacé les vieilles ampoules à filament, elles sont plus écolo, c'est vrai, moins énergivores, c'est vrai aussi, mais d'après des chercheurs français, donc elles pourraient aussi représenter un risque pour les yeux, Mélanie Gomez.
Oui Maxime, et pour le prouver, ces chercheurs ont réalisé une expérience sur des rats. Ils les ont exposés à toutes sortes d'ampoules. Et ce qui ressort, c'est que seuls les LED causent des dégâts sur les yeux. Et ce, même à une intensité de lumière équivalente à celle qu'on a chez nous, dans nos habitations. Au bout de seulement une semaine d'exposition, on voit chez ces rongeurs des lésions au niveau de leur rétine. Les cellules qui la composent se nécrosent, meurent. Résultat, même si nous, on a naturellement un mécanisme de réparation, cela pourrait entraîner chez l'homme des maladies comme la DMLA, une dégénérescence de la rétine, normalement liée à l'âge. Et les plus à risque, ce sont les enfants. En dessous de 10 ans, les filtres naturels de la rétine ne sont pas développés. Du coup, cela pourrait avoir des conséquences graves sur leur vision. Alors, le principal coupable, c'est la lumière bleue, très élevée dans les LED. Elle envoie des rayons intenses et c'est pour ça d'ailleurs que ces ampoules font une lumière très blanche. Donc, par précaution, les spécialistes, et ça depuis 2010, appellent à une nouvelle génération d'ampoules qui en contiennent moins. Et puis, à la maison, le conseil, c'est d'opter pour les LED les moins puissante et surtout d'éviter de les regarder directement.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Comment dans ce journal en ce vendredi 6 janvier ne pas en parler? Comment éviter le sujet de la galette? Ce week-end d'épiphanie, par faiblesse, nous avons préféré aborder la question. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, mais vous avez raison, il ne faut pas l'éviter ce
mais
sujet.
Mais évidemment, vous êtes le spécialiste.
Tout le monde va manger une galette ce week-end.
Ben, j'espère, vous êtes le mois, c'est déjà fait, hein, 2 cette semaine. Vous êtes le spécialiste gastronomie d'Europe 1. Votre mission Olivier, c'est de nous apprendre en 2 minutes à faire notre propre galette. D'abord la pâte, on triche un peu ou pas?
Oui, parce que la base de la pâte feuilletée, c'est honnêtement un petit peu compliqué. C'est long surtout,
c'est
plus
long
que difficile. Donc franchement, allez acheter chez votre pâtissier préféré 2 beaux disques de pâte feuilletée.
On peut demander à son boulanger.
Bien sûr. Ou alors éventuellement, vous allez en supermarché, on trouve des pâtes feuilletées pur beurre qui sont relativement qualitatives.
Bon, jusqu'à présent, la pâte, je dois vraiment sortir.
Ça,
donc.
Ça devrait aller, ouais.
C'est la garniture, en fait,
oui.
Qui fait la galette. Alors normalement, la grande tradition veut qu'on garnisse ça de frangipane. La frangipane, c'est un mélange de 2/3 de crème d'amande et 1/3 de crème pâtissière. C'est pas très compliqué à faire, mais ça met un petit peu de temps. Moi, je vais vous proposer une version vraiment simplifiée à base de pommes,
okay,
pour alléger tout ça, pour donner un petit côté aussi hivernal, et on est en pleine saison de la pomme. Donc, on va partir sur, effectivement, la base de la pâte feuilletée. Il vous en faut 2 disques. Vous allez prendre de la poudre d'amande, 125 grammes, du beurre mou, précision importante, 100 grammes, un peu de sucre blanc, 100 grammes également, des pommes. Il vous faudra 2 œufs plus un jaune d'œuf à part, dont on parlera dans un instant, et puis un petit peu d'extrait d'amande amère si vous en avez. Alors c'est très simple, vous prenez un disque de pâte feuilletée,
oui,
et vous élaborez votre appareil. Donc vous allez mélanger la poudre d'amande, le beurre mou, le sucre et les œufs. Et vous mélangez tout ça avec énergie, un bon petit coup de fouet. Une fois que votre appareil est prêt, vous allez le tartiner tranquillement au centre de votre pâte feuilletée et vous allez rajouter des quartiers de pommes que vous aurez finement émincés. On referme le tout avec un deuxième disque de pâte feuilletée par-dessus. On colle ça bien avec avec les doigts. On fait quelques dessins originaux et amusants avec une pointe de couteau en faisant très attention de ne pas percer la pâte feuilletée. C'est très important, donc très légèrement. Et puis, on va badigeonner cette pâte feuilletée avec le dernier jaune d'œuf. C'est très important parce que c'est ce qui va donner le côté doré au moment de la cuisson.
Et on cuit combien de temps?
Eh bien, on enfourne ça dans un four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. La pâte feuilletée va monter et puis la pomme va caraméliser. Elle va se mêler avec cette crème d'amande et vous aurez donc ce mélange pomme légèrement confite, amande et la pâte feuilletée.
Question d'Anissa.
Vous avez oublié l'essentiel.
Ah, la fève.
La fève, ah, bien sûr.
Oui, c'est évidemment une fève. Et puis le plus jeune d'entre vous se glisse sous la table pour répartir les parts.
J'avais moi-même oublié la fève. Alors reprenez votre stylo, reprenez un petit papier. Olivier, en 30 secondes, va répéter les proportions.
Alors, c'est donc deux disques de pâte feuilletée, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou, 100 g de sucre blanc, 3 pommes, 2 œufs, plus un jaune d'œuf à part pour badigeonner la pâte feuilletée à la fin.
C'est extrêmement facile, c'est garanti sur facture, c'est Olivier Pouls.
Et je viens la goûter chez vous ce week-end, Maxime.
C'est Olivier Pouls qui rembourse si jamais il y a un petit problème. Merci beaucoup Olivier, spécialiste gastronomie d'Europe 1. On vous retrouve ce week-end, évidemment.
Eh bien, on va parler justement de la Galette des Rois avec un invité exceptionnel, puisque dimanche à 12h40, nous recevrons Pierre Hermé. Autant vous dire qu'en matière de galettes, il en connaît un sacré rayon. Et donc, nous verrons avec lui comment élaborer des galettes, sans doute un petit peu plus compliquées, mais évidemment extrêmement savoureuse.
Et ce sera avec Elena Morna. Merci beaucoup.
Absolument.
Olivier. La petite musique de Christophe Ondelat.
La petite musique qui fait peur, puisque dans un peu plus d'un quart d'heure, Christophe Ondelat vous fait revivre l'un des très célèbres faits divers de l'histoire. Alors, quelle est l'affaire que nous allons suivre avec vous aujourd'hui, Christophe?
Aujourd'hui, l'un des crimes les plus célèbres des années 50, l'affaire Vivier-Sermeus. Ils ont tué juste pour voler une voiture.
Ondelat raconte, c'est dans un peu plus d'un quart d'heure à 13h15 tout pile sur Europe 1.
Et dans un instant, le journal de 13h, le débat d'Europe Midi, votre agence bancaire au coin de votre rue est-elle d'ores et déjà condamnée? On en parlera avec nos débatteurs, mais d'abord la météo, Valérie Darmon. Quel temps pour ce week-end? On le rappelle, 18 départements, vigilance orange. Dans le nord, notamment l'ouest, à cause du verglas et de la neige.
Et l'est aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Enfin voilà, tout le nord avec une ambiance toujours glaciale demain matin. Une nouvelle perturbation qui gagne le nord de la France. Prudence, les routes seront glissantes des Hauts-de-France à la Basse-Normandie. Petit flocon annoncé dans les Ardennes. Ces 18 départements de l'Orne et du Calvados jusqu'à l'Aisne, jusqu'au nord, bassin parisien compris, qui sont en alerte neige et verglas depuis une petite heure. Une perturbation donc faiblement active va descendre sur la France dans la nuit de vendredi à samedi, la nuit prochaine, depuis le sud de l'Angleterre. Elle va donner de faibles bruines en mer sur la Manche, mais ces précipitations vont se transformer en bruines verglaçantes dans l'intérieur des terres, au contact de l'air très froid et des sols gelés. Cet épisode dangereux touchera d'abord le Nord, le Pas-de-Calais, la Normandie, avant de gagner progressivement la Picardie, le bassin parisien, dans la matinée de demain. Il peut perdurer jusqu'en soirée, avant que le redoux ne soit sensible et élimine ce risque de verglas au fil de la journée. Un mot d'ailleurs tout de même, sur la moitié sud, rien à voir. Le temps sera calme demain, sec et ensoleillé toute la journée. Bien évidemment, dans ce contexte, les températures vont rester très en dessous des normales de saison dans la journée de demain, sans dégel, toujours dans l'Est, exactement comme aujourd'hui.
Et en un mot, ça ira un peu mieux dimanche?
Alors ça ira mieux au niveau des températures, elles vont remonter légèrement tout de même, moins de verglas, mais beaucoup plus de nuages sur l'ensemble du pays, excepté sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité, Maxime Switek.
Et à la une, vous venez de l'entendre, prudence, Météo France a placé 18 départements, vigilance orange, région parisienne, Normandie et Nord, vigilance à cause de la neige et du verglas qui sont attendus dans les heures qui viennent. Le froid plus les intempéries, cocktail dangereux pour ceux qui prendront la route ce week-end. Jean-Luc Boujon, vous êtes du côté des coteaux du Lyonnais où des opérations de salage ont déjà débuté ce matin. Opération de précision.
Effectivement, hein, pas question de jeter du sel n'importe où et n'importe comment sur les routes. C'est un salage raisonné qui a été pratiqué ce matin, explique Fabien Chergui, chef du service technique Voirie Sud.
Trop de sel tue le sel. Le sel a tendance à réhumidifier les chaussées avec le froid. Donc c'est pour ça qu'on évite de trop saler. Et puis il n'est pas bon pour l'environnement non plus. Il a un certain coût. Hein. La tonne de sel coûte 60 euros. Donc le département du Rhône est très vigilant pour des questions environnementales, des questions budgétaires, à ne pas mettre trop de sel sur les routes.
C'est aussi pour cela qu'on ne lance pas les saleuses au hasard sur les routes. Au petit matin, il y a d'abord un patrouilleur qui sillonne les différents axes pour repérer les secteurs délicats. Il était au volant dès 3 heures du matin de son véhicule spécialement équipé, ici près de Souchon-Jarret.
J'essaie de repérer les traces de givre ou de verglas avec l'aide du thermomètre embarqué. J'ai un thermomètre laser pour capter la température de la chaussée et après un visuel sur l'état de la route.
Justement, voilà un secteur de virage un peu glissant. Hervé décide donc de déclencher la saleuse.
Allô ? Oui, salut, c'est Hervé. Est-ce que tu peux venir pour traiter la route départementale 36, s'il te plaît ?
Ok, j'arrive.
Voilà, une astreinte qui va rester en place tout le week-end au vu des températures glaciales qui sont annoncées.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 dans la région de Lyon. Merci beaucoup, Jean-Luc. Nous vous en parlions ce matin sur Europe 1. Un groupe d'adolescents est soupçonné d'avoir violé une fillette de 12 ans dans le Loiret. Au départ, une dizaine d'entre eux étaient dans le viseur des enquêteurs. Mais Guillaume Bié, finalement, deux d'entre eux, âgés de 14 et 16 ans, ont été présentés à un juge d'instruction d'Orléans en vue de leur mise en examen.
Oui, à ce stade de l'enquête, il ne reste que deux adolescents suspectés de viol, deux garçons de 14 et 16 ans qui auraient contraint cette jeune fille de 12 ans à leur pratiquer des fellations. Sept autres ados interpellés ont été mis hors de cause. L'affaire a éclaté à l'automne dernier quand les parents de la victime ont été convoqués au collège. La direction de l'établissement venait de découvrir que des clichés de cet élève circulaient de portable en portable dans le collège. Photos dénudées de l'adolescente qu'elle aurait elle-même envoyées à un garçon. De là, elle a fini par raconter ce qu'elle avait subi, d'où la dizaine d'arrestations intervenues avant-hier. Sauf que les enquêteurs sont très prudents sur ce dossier. La victime a beaucoup varié dans ses déclarations. Elle a finalement dédouané des jeunes gens qu'elle avait initialement mis en cause et avec laquelle elle aurait eu en réalité des relations consenties. Une jeune fille fragile, nous dit-on. Une troisième personne est poursuivie dans ce dossier. C'est un jeune homme de 19 ans. Lui est soupçonné de corruption de mineurs.
Guillaume Bié, à Nice, la relaxe pour un chercheur du CNRS. Il s'était fait arrêter en octobre à un péage avec à bord de sa voiture trois réfugiés érythréennes. Il cherchait à les faire rentrer illégalement en France depuis l'Italie. Le jugement est tombé ce matin. Il n'a pas été condamné. Le foot avec le début ce soir des 32e de finale de la Coupe de France. Trois matchs à 21h et notamment Monaco AC Ajaccio. Nous passons au débat d'Europe Midi.
Europe Midi.
Il est 13h04 sur Europe 1, c'est donc l'heure du débat d'Europe Midi avec vos invités Maxime et toutes vos réactions sur Twitter avec le hashtag #1midi et au 39-21 le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute.
Le débat du jour, votre agence bancaire au coin de votre rue est-elle d'ores et déjà condamnée ? Question posée alors que ces derniers mois, quasiment tous les grands groupes bancaires ont annoncé des fermetures d'agences et des suppressions de postes, un mouvement qui est notamment lié à l'essor des services sur Internet, sur smartphone, on a de moins en moins besoin d'aller en agence. Pour débattre avec nous, Serge Maître, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes le porte-parole de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Régis Dos Santos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national de la banque et du crédit. Régis Dos Santos, c'est vous, hier, qui avez lancé une sorte de cri d'alarme. Vous craignez que les fermetures d'agences se poursuivent en 2017, 2018, voire qu'elles s'accélèrent ?
Alors oui, bien sûr, mais c'est un phénomène qui est malheureusement est tout à fait normal. Je veux dire, la digitalisation qui est en cours va amener inévitablement à une fermeture, à une diminution du maillage du territoire partout en France. C'est logique. Les clients ne viennent plus en agence. Les clients n'ont plus besoin, pour la plupart de leurs opérations, de venir en agence. Ils peuvent réaliser toutes leurs opérations à partir de leurs ordinateurs et aujourd'hui à partir de leurs smartphones. Donc l'agence telle que nous la connaissons aujourd'hui est vouée à disparaître dans beaucoup d'endroits. Néanmoins, il restera un réseau d'agences physiques.
Il restera un réseau d'agences physiques et il reste évidemment un vrai problème social. Avant de parler du problème social, Serge Maître, si on s'arrête sur les services rendus aux clients, Internet, les smartphones, c'est hyper pratique.
Ça paraît tout à fait hyper pratique. Le seul problème, c'est que ce n'est pas toujours volontaire. Pourquoi ? Mais parce qu'on nous a conduit à ne plus aller à l'agence, nous les usagers, pour la plupart d'entre nous. Regardez, maintenant, pour déposer des sous, des espèces, on va passer par le guichet automatique. Vous voulez retirer des espèces ? Oh bah depuis déjà longtemps, ça ne se passe plus à l'agence, parce que l'agence n'a plus de caisse. Voilà ce que l'on peut constater. Et pour le reste, c'est à peu près du même acabit. Donc, il y a, le système, le modèle bancaire français a promu, disons, de faire valoir la machine, c'est-à-dire l'automatisme, la digitalisation volontaire pour le consommateur, mais parfois et très souvent forcé. Et là, on a effectivement une paupérisation du maillage sur le territoire français.
Je vais parler de mon cas personnel. J'utilise quasiment tous les jours l'application de ma banque pour aller vérifier des comptes, faire des virements, etc. Je trouve ça hyper pratique. Vous, vous considérez que le service qui est rendu au client a baissé?
Concrètement, l'offre de service initiale a baissé. Et tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'a pas Internet. Il faut le voir. Rappelons que la moitié de la France gagne moins de 1500 euros. Ceux-là ne sont pas digitalisés nécessairement. Et puis, pour les retraités qui sont très nombreux, la moitié d'entre eux gagne moins de 900 euros. Eh bien, cette population, elle n'est pas dans la digitalisation, généralement. Elle n'est pas par rétrograde. Mais il faut en avoir encore les moyens. Et si vous passez beaucoup d'ordres à votre banque par la digitalisation, c'est que vous avez des sous.
Régis Dos Santos, vous qui représentez ceux qui travaillent dans les agences bancaires, le retour qu'ils ont des clients, les retours que vous avez, vous, c'est qu'ils ont aussi, comme Serge Maître, le sentiment que le service est en train de baisser en qualité ?
Non, le service, oui, on pourrait longuement discuter sur la qualité du service qui est rendu. Nous montons au créneau régulièrement au SNB parce qu'il n'y a pas suffisamment de salariés là où les clients viennent encore. Mais ce qui nous remonte inévitablement du terrain, c'est que les clients ne viennent plus. Les clients ne viennent plus aujourd'hui dans une agence bancaire que lorsqu'ils ont un projet. Un projet immobilier, un projet d'épargne, un projet de retraite ou autre. Sinon, le reste de l'année, ils utilisent, comme vous venez de le dire vous-même, leur smartphone, leur ordinateur. Alors, pour répondre à Serge Maître, simplement, on va pas fermer l'ensemble du réseau bancaire, d'agences, dans les 6 mois qui viennent. Tout ça va se faire de manière progressive. Il y a des zones, comme la région parisienne, l'Île-de-France, où ça risque d'aller évidemment beaucoup plus vite, parce que le taux d'équipement est beaucoup plus important. Les zones rurales continueront à avoir des agences beaucoup plus longtemps. Mais ce mouvement, ce que je voulais vous dire, c'est que le mouvement est inexorable. Ce que je ne veux pas, moi, et c'est pour ça que j'ai poussé ce cri d'alarme hier, je n'ai pas envie que les banques demain se retrouvent dans la situation des taxis aujourd'hui face à Uber ou dans la situation des hôteliers face à Airbnb. Donc il faut que nous avancions, entreprises, salariés et clients, vers une digitalisation beaucoup plus importante. Simplement, ce que nous demandons, nous, c'est qu'il y ait aujourd'hui un vrai plan Marshall de la formation, de manière à ce que les salariés qui aujourd'hui sont des généralistes, que vous n'avez plus besoin d'aller voir puisque vous l'avez sur votre smartphone, deviennent demain les experts dont vous aurez besoin pour concrétiser votre projet.
Serge Maître.
Je dirais que de part et d'autre du guichet, il y a deux personnes. Il y a l'employé et le client. L'employé a craint pour son emploi, effectivement, parce qu'il y a le choix de la machine contre l'homme. Et là, ça peut se jouer sur l'emploi. Mais pour le consommateur, que constate-t-il ? C'est l'augmentation des tarifs, pour frais de tenue de compte, par exemple. Mais quelle est la contrepartie ? Puisque l'on remplace l'homme par la machine, ça devrait obtenir des gains de productivité, faire des économies. Or là, les banques nous disent, non, ça fait beaucoup de dépenses et pas vraiment d'économies, en tout cas pas suffisamment. Et là, on se dit, tiens, il y a un discours pipé, parce que quelque part, l'employé dit, attendez, je crains pour mon emploi. On peut quand même pas dire autrement, c'est le cri de beaucoup de salariés, nous avons 5% de nos adhérents qui sont des salariés de banque. Et de l'autre côté, vous avez le client qui dit, je vois pas pourquoi je paye encore plus, et je vois pas, j'ai l'impression que ça diminue comme peau de chagrin le service qu'on me doit.
Tout ça semble effectivement très paradoxal. Régis Dos Santos, la part qu'ont pris les banques en ligne, est-ce qu'elle est importante aujourd'hui ? Les banques totalement en ligne ?
Non, elle n'est pas encore très importante en France. On a, par rapport aux pays anglo-saxons, beaucoup de retard, parce que c'est normal. En France, la relation à l'argent est différente. Aujourd'hui, en France, le lien à l'argent reste encore quelque chose de très secret, Et donc, il y a les gens... Mais le cri d'alarme qu'on a lancé hier, c'est également pour ça. C'est que, entendant ce que dit Serge Maître, et moi, je ne suis pas le représentant des entreprises, mais des salariés, mais il est évident que si on continue de la manière dont on fonctionne dans les banques, on va pousser de plus en plus de gens à aller vers la banque en ligne, voire vers la banque low cost comme le compte Nickel, où vous ne payez strictement rien, mais en contrepartie vous n'avez pas de service non plus.
Vous n'avez pas grand chose non plus. Compte Nickel qu'on peut ouvrir dans certains bureaux de tabac, effectivement. Sur les conséquences sociales, on en est où aujourd'hui ces dernières années ? Combien de postes ont été supprimés ? Combien d'agences ont été supprimées ? Est-ce que vous avez une vision globale de la chose ?
On n'a pas une vision globale, puisqu'il y a, eu un certain nombre d'annonces. La Société Générale a annoncé 400 fermetures d'agences dans les 5 ans qui viennent. BNP est à peu près sur le même rythme. D'autres ne communiquent pas, mais ne font pas de plan, mais ferment ponctuellement telle agence ou autre. En termes d'effectifs, le secteur bancaire, c'est 370 000 salariés en France
aujourd'hui. C'est colossal.
C'est énorme. Ça continue à être un secteur qui recrute beaucoup. Il y a eu en 2015, on n'a pas les chiffres de 2016, mais en 2015, il y a eu 39 000 recrutements, ce qui est important. Simplement, il en part plus qu'on en embauche aujourd'hui. Et donc, on est sur un rythme annuel de l'ordre de 0,8 à 1,2% de baisse des effectifs. Et ça, nous l'accompagnons, parce qu'on préfère que la diminution des effectifs se fasse par des départs en retraite que par des plans sociaux. Le danger, c'est que la digitalisation avance à marche forcée, va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait il y a encore 6 mois ou 1 an. Et donc, ce que nous craignons, c'est que si les mesures ne sont pas prises rapidement en matière de formation, que nos collègues qui sont aujourd'hui généralistes n'aient pas le temps ni la possibilité de devenir les experts dont les adhérents de Monsieur Maître ont besoin dans leurs agences.
Donc encore une fois, vous, ce que vous demandez, c'est qu'on forme une bonne partie de ceux qui sont ou qui étaient aujourd'hui derrière les guichets à faire autre chose. Mais à faire quoi concrètement ?
Pour certains, ils iront travailler dans les nouveaux métiers, ceux des réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter et autres, vont devenir des canaux demain très importants de vente des produits bancaires. Mais il y a toute une partie de nos collègues, on souhaite qu'ils soient formés à devenir les fameux experts dont je vous parlais, experts immobiliers, experts en épargne, experts en assurance retraite et autres. Parce que le client fait toute la préparation, toute la phase préparation qui nécessitait d'avoir une agence à côté de chez soi pour avoir 5, 6, 7 rendez-vous. Aujourd'hui, il fait tout chez lui devant son ordinateur. Et quand il vient à l'agence, et encore plus demain, il voudra un expert qui lui confirmera que ce qu'il avait trouvé comme information sur Internet, c'est la vérité.
Le point de vue des clients, Serge Metz, c'est exactement ça qui est en train de se passer ?
Les clients, disons, il y a ceux des clients qui sont tout à fait comme vous, digitaliser son rapport et ne jamais pousser la porte de leur agence.
Si, pour un crédit.
Voilà, pour un crédit ou en cas de problème.
Oui.
Ah oui, j'ai des problèmes de provision sur mon compte, mais concrètement, les clients ont l'impression d'être, non point la ramasse, mais disons d'être les dindons d'une évolution qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils leur est imposée. Le problème, c'est que c'est imposé. C'est imposé quand vous êtes maintenant impossible de retirer des espèces dans une agence. Eh bien voilà, c'est imposé. On vous laisse pas le choix. Et donc ce côté prégnant de la banque, eh bien, est très mal ressenti, c'est évident, par les usagers.
Régis Dos Santos, la question c'est de savoir si on aura malgré tout toujours autant besoin de personnel, même s'ils sont formés à d'autres métiers. Est-ce que vous aurez toujours besoin d'autant de postes dans le monde de la banque ?
Non, mais la pyramide des âges qui fait qu'on va avoir encore dans les 3 ans ou 4 ans qui viennent beaucoup de départs en retraite va nous aider à permettre une diminution là aussi de manière un peu plus régulière. Mais simplement pour revenir sur ce que disait Serge Maître, alors je partage pour partie pour tout ce qui concerne la province, simplement il faut savoir que dans les pays nordiques par exemple, on s'interroge sur la disparition de l'argent. Des oui. pièces et des billets. Donc c'est une évolution. Vous savez, moi, je ne veux pas être le Don Quichotte de l'Internet.
Vous voulez vraiment énerver Serge Maître, là.
Tout à fait.
Il l'a dit tout à fait. En fait, c'est le modèle de développement des banques françaises qui est vraiment singulier en Europe. Elles ont tout mis sur les nombres d'agences de terrain pour le maillage de terrain. Vous n'avez pas une densité d'agences dans les autres pays. Vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Allemagne, vous ne retrouvez pas dans des métropole avec un carrefour phagocyté avec 4-5 enseignes bancaires. Et là, sans aucun doute, nous payons actuellement, et les salariés risquent de payer, c'est quand même un risque que vous avez énoncé, eh bien risquent de payer le choix du modèle de développement bancaire qui a été prévalu depuis 1984 pratiquement.
Et je pense pas, je pense qu'on est sur un schéma où les banques essaient d'accompagner l'évolution de mode de consommation de leurs clients. Je veux dire, on a pendant toute une période beaucoup ouvert agence pour garantir une proximité et être en mesure d'apporter des réponses aux clients. Aujourd'hui, d'autres outils permettent de le faire. On va se réorienter vers ces outils.
Je suis obligé d'arrêter là ce débat. Je suis désolé, je voulais juste citer un tweet. On en a eu pas mal parce que c'est un débat qui évidemment intéresse tout le monde. Tweet de Latrabilaire qui nous dit l'arnaque made in France. Les banques augmentent les frais pour financer le numérique et du coup on ferme les agences car non fréquentées. Voilà qui est résumé. C'est un peu ce que disait Serge Maître tout à l'heure. Merci Serge Maître, porte-parole et président aussi de la FUB.
Secrétaire général porte-parole.
secrétaire général de l'Association française des usagers des banques, Régis Dos Santos, président du syndicat national de la banque et du crédit. Merci à tous les deux d'être venus débattre en direct dans Europe Midi. Merci Anissa.
Merci à vous Maxime. Bon week-end.
Bon week-end.
Et à lundi,
à toutes et à tous.
Midi et demi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.